France Inter, franceinter.com.
Nous retrouvons tout de suite Alain Bédoué. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Alors que Bill Gates passe la main, prend sa retraite et que le monopole des produits Microsoft est de plus en plus souvent mis en cause, directement ou indirectement, les partisans du logiciel libre sont réunis en ce moment même à Mont-de-Marsan, dans les Landes, pour leur 9e rencontre mondiale, avec, je crois, une quarantaine de pays qui sont représentés là-bas. Comme leur nom l'indique, ces logiciels sont libres et gratuits. Nous sommes dans une sorte d'autre monde, l'envers ou le revers de Windows et de la Word Company, où Linux taille des croupières aux logiciels propriétaires et où des tas de logiciels libres sont disponibles. D'ailleurs, on en parlera sans doute tout à l'heure, pas seulement pour les particuliers, puisque certaines entreprises, mais aussi certaines collectivités, administrations, voire municipalités, se tournent maintenant vers le libre ou y pensent. Et c'est donc notre sujet de ce soir avec plusieurs intervenants. Au téléphone, d'abord en Italie, Richard Stallman, pionnier littéralement de l'informatique ouverte, militant de la toute première heure des logiciels libres, créateur de la licence GNU Linux et fondateur de la fondation Free Software. À Mont-de-Marsan, dont je parlais dans les studios de nos amis de France Bleu Gascogne, Jean-Christophe Elino, qui préside le comité d'organisation de ces rencontres sur le logiciel libre. Et puis ici, en studio à Paris, Alix Cazenave, chargé de mission pour l'April. L'April, c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Et je n'oublie pas Hélène Chevalier de France Inter.
Le téléphone sonne.
Ben, Robin, bonsoir, vous êtes à Marseille. On va commencer avec vous.
Bonsoir, oui. Donc, je m'intéresse au libre depuis quelques temps maintenant.
Oui.
Je suis membre d'une association, bon, ça, je le dis rapidement, hein, c'est Avignu, avignu.org, sur Avignon et la région. Et donc, en fait, je vois que le libre s'est développé assez massivement, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis assez longtemps. Et ma crainte, c'était les grands, là, Microsoft, etc., réagissent. Et ils ont déjà commencé à réagir en rachetant certaines sociétés de libre. Et notamment aussi en Chine, il y a une volonté de mettre un quota de libre assez impressionnant dans le fonctionnement des PC. Donc, par rapport à Richard Stallman, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Est-ce que quelque part on...
Attendez, vous parlez un peu vite. Il parle français mieux que nous ne parlons la plupart d'entre nous anglais. Mais enfin, votre question précise à Richard Stallman qui nous écoute, Robin, laquelle est-ce?
Eh ben, en fait, c'est est-ce que avec donc Microsoft qui rachète des sociétés de libre, ou alors la volonté du gouvernement chinois, par exemple, de s'équiper en libre, ou même est-ce qu'il n'y a pas un risque que le libéralisme, quoi, enfin le commerce rattrape un peu le libre
soit phagocyté en quelque sorte par effectivement cette dimension-là. Bonsoir Richard Stallman, une réponse
Bonsoir.
Pour Robin.
Il y a une confusion parce que l'idée du logiciel libre n'est pas à l'encontre du commerce. Nous ne disons pas logiciel gratuit parce qu'il ne s'agit pas d'être gratuit. La gratuité n'est pas le but, mais plutôt la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc nous ne sommes pas à l'encontre que les entreprises utilisent du logiciel libre et développent du logiciel libre et distribue du logiciel libre. C'est bon tant qu'il respecte les droits de l'homme des autres utilisateurs. Et il y a, c'est vrai, un risque de ne pas le faire.
C'est
mais
vrai.
C'est autre chose. La seule présence des entreprises dans le logiciel libre n'est pas un problème en soi.
Alors, de quoi parlons-nous exactement? Beaucoup de courriels là-dessus. Laurent à Lyon, ça arrive à l'instant. Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. GNU Linux n'est pas une licence, c'est GPL. D'une façon plus globale, Loïc dans le Finistère. Mais quelle est votre définition du logiciel libre? J'ai entendu dire qu'il existe beaucoup d'approches, plusieurs types de logiciels non propriétaires et même plusieurs niveaux. Alix Cazenave de l'April, est-ce qu'on peut essayer pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des initiés ou des ingénieurs informaticiens, donner une définition de ce logiciel dit libre?
Oui, ce que nous appelons logiciel libre, c'est un logiciel que chacun a le droit d'exécuter, donc d'utiliser, mais aussi d'étudier parce que son code source est ouvert. Et il a également le droit de le modifier pour son propre usage ou pour le diffuser, et donc de diffuser des copies soit à l'identique, soit avec les modifications.
Hélène Chevalier, vous vouliez intervenir?
Sur le système en lui-même aussi, sur la production des logiciels libres, je pense que c'est intéressant de dire aussi que c'est une communauté en fait, d'ingénieurs qui travaillent dessus et pas dans une entreprise comme Microsoft où ce sont des ingénieurs qui travaillent tous ensemble. Là, il y a une vraie communauté qui est répartie dans le monde entier.
Alix Cazenave.
Oui, je voudrais ajouter que c'est effectivement une communauté qui est... Le libre est riche parce qu'il est très divers. Et il est composé d'une multitude d'acteurs. C'est aussi bien des entreprises que des particuliers, que des administrations, des gens qui sont simples utilisateurs et qui vont faire des rapports de bugs. C'est un peu tout ça qui fait le logiciel libre, et c'est pas juste des barbus chez eux qui ne font que faire du code sur leur machine à temps complet, quoi. C'est vraiment une diversité d'acteurs.
C'est ce que nous font remarquer beaucoup d'internautes. Hugo, à Suresnes, certaines entreprises mais aussi certains secteurs de l'administration sont passés au logiciel libre, et Hugo cite la culture, la l'agriculture, l'équipement, les finances avec le système de recouvrement des impôts. Ça montre bien, ajoute-t-il, que la voie est intéressante aussi de ce côté-là. Et puis Anne, qui a entendu dire que la fonction publique pourrait passer au logiciel libre, entre autres les documents qui seraient désormais gérés via OpenOffice plutôt que Word et compagnie. Il paraît également, ajoute Anne, que la gendarmerie nationale veut rendre ses licences Windows et passer ses postes sur Linux. Jean-Christophe Elino, bonsoir. Vous êtes dans les studios donc de nos amis de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan. Et je crois que la municipalité de Mont-de-Marsan elle-même a décidé de passer au livre, c'est cela?
Oui, bonsoir Monsieur Bédoué. Tout à fait, je vous confirme que ce matin, lors de l'inauguration des 9e rencontres mondiales du logiciel libre, Madame le maire a annoncé le passage au logiciel libre pour l'ensemble des systèmes d'information de la commune.
Question qui revient très souvent ce soir, alors ça va paraître un peu naïf à ceux qui sont très pointus là-dessus, ça va peut-être même les faire bondir, mais vraiment elle revient souvent, donc je me fais l'interprète de ces internautes et je la pose. J'ai pris la plus courte, mais toutes reviennent à la même chose. Le logiciel libre, difficile ou pas? Alors Alex dans le Nord nous dit, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir un bon niveau d'informatique pour utiliser ces logiciels? Alix Cazenave.
Alors moi je ne suis pas du tout informaticienne, j'ai une formation d'école de commerce, donc j'ai jamais écrit une ligne de code de ma vie, et pourtant j'utilise des logiciels libres depuis un peu plus de 2 ans, et applications et systèmes, des applications, ça fait même plus longtemps que ça que j'en utilise. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste, évidemment c'est une ergonomie différente, donc comme tout logiciel différent, il faut s'y adapter.
S'adapter un peu, voilà.
Mais il n'y a pas de difficulté particulière à partir du moment où on est suffisamment ouvert pour accepter la nouveauté.
Jean-Alain dans l'Essonne, bonsoir Jean-Alain.
Oui, bonsoir, et merci pour votre émission.
Mais je vous en prie.
C'est libre. Oui, bah justement, moi, pour poursuivre, je crois que je crois que l'arrivée de Windows Vista, la mise sur le marché par Microsoft de Vista, c'est l'occasion pour beaucoup d'entreprises et d'utilisateurs particuliers de faire l'effort, puisqu'il faut faire un effort pour Vista, parce que il faut réapprendre des choses. Eh bien, c'est la bonne occasion de passer au logiciel libre et petit à petit de se former, d'apprendre. Voilà, et donc je voudrais savoir ce qu'en pensent vos intervenants.
Les intervenants, on va leur poser la question. Alix Cazenave, voulez-vous commencer?
Oui, c'est effectivement une très bonne occasion, d'autant plus que Vista est quand même un échec commercial. Les utilisateurs sont très mécontents. Ici même sur France Inter, au mois de février, on a eu l'occasion de le constater dans l'émission d'Isabelle Giordano. Enfin, voilà, c'est évidemment une bonne occasion de changer son système et de passer à une distribution libre.
Jean-Christophe Elino, une réponse vous aussi à Jean-Alain?
Oui, moi, on peut considérer aujourd'hui que beaucoup de logiciels libres sont arrivés à maturité, aussi bien dans les systèmes d'exploitation que les logiciels pour faire du graphisme, de l'Internet. Et c'est forcément une excellente alternative aujourd'hui à Windows Vista.
Et vous, Richard Stallman, avant que Hélène Chevalier intervienne?
D'abord, je veux dire que le système libre auquel la mairie passe n'est pas Linux, c'est le système d'exploitation GNU, oui, avec le kernel Linux. Mm-hmm. Mais aussi au sujet de Windows Vista, il faut noter que l'avance technique la plus grande dans Windows Vista est dans le contrôle de l'utilisateur par Microsoft, dans la surveillance à l'utilisateur, dans la restriction de l'utilisateur. Donc il faut reconnaître dans Windows Vista une attaque à l'utilisateur, plus claire qu'avant.
Hélène Chevalier.
Vous parliez du logiciel libre en disant qu'il y avait des noms qui faisaient un peu peur, genre Linux ou des choses comme ça. On se disait, est-ce que c'est difficile à utiliser? Il y a quand même un logiciel libre qui est utilisé par un internaute européen sur trois, c'est Firefox, c'est le navigateur sur Internet. Il y a quand même une personne sur trois qui l'utilise et c'est un logiciel libre et c'est pas compliqué.
Logan, vous êtes à Orléans, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc ma question en fait porte sur deux points principaux. Tout d'abord, pourquoi mettre tout en œuvre pour empêcher certains acteurs du monde libre de pouvoir utiliser la propriété intellectuelle développée par des grands éditeurs, alors que ça permet interopérabilité et valeur ajoutée pour le client final? Donc là, je pense principalement à l'accord Novell-Microsoft en novembre 2006, qui avait découlé sur des adaptations dans la GPL3 pour interdire ce genre de choses. Et deuxièmement, pourquoi vouloir à tout prix combattre tout ce qui vient de grands éditeurs de logiciels, par exemple OpenXML, qui a été combattu pour sa normalisation ISO uniquement parce que c'était proposé par Microsoft?
Bon, comme disait Coluche sur la Matteo Marine, c'est pas drôle, c'est dans une autre langue. Là, on va essayer de comprendre aussi. Jean-Christophe Elino, par courtoisie, au moins une réponse à Logan, mais de façon, dans la mesure du possible, pas trop technique pour que tout le monde comprenne.
Alors effectivement, l'OpenXML, c'est une norme qui a été proposée par Microsoft pour la standardisation des documents. Mais c'est un vote qui a donc été effectué dans l'ensemble des pays. Mais je crois que les choses sont en train de changer. Et je pense qu'Alix, là-dessus, pourrait nous en dire sans doute un peu plus.
Alix Cazenave, d'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Oui, alors effectivement, le format OOXML pour Office Open XML de Microsoft a été proposé à la normalisation. Pourquoi est-ce que nous sommes contre cette normalisation? Déjà parce que le format n'existe pas. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle un vaporware, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Ça n'a jamais été réalisé. La deuxième chose, c'est qu'une spécification, elle repose sur un document technique qui va décrire comment le format est composé, comment il fonctionne. Et ce document technique n'existe pas, lui non plus. Et la troisième chose, c'est que cette possible norme repose sur les formats fermés hérités de Microsoft, que tout le monde connaît, le .doc, le .xls, le .ppt, et ces formats, eux, restent fermés. Donc, si on avait un format existant, avec un document de spécification complet, et évidemment, les spécifications des formats hérités, nous serions probablement mieux disposés à accepter cette norme. Au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'une norme bureautique existe déjà et qu'en termes de normalisation, il est contre-productif, chacun le comprend, d'avoir deux normes. Sinon, c'est plus normalisé. Et deuxième chose, on a parlé de Novell Microsoft et de la GPL V3. Richard Stallman a parlé de quelque chose de très, très, très important tout à l'heure. C'est la liberté des utilisateurs.
Oui.
Si on met des brevets logiciels, des clauses de brevets logiciels dans des accords de licence entre éditeurs, si on met des DRM ou du Trusted Computing, comme on appelle ça, c'est-à-dire un contrôle par des puces avec des...
Les DRM, ce sont des verrous, hein, en quelque sorte.
C'est des verrous,
oui,
c'est des menottes numériques. C'est des menottes numériques, il faut bien comprendre ça. Si on met ces choses-là, le logiciel n'est plus libre. On n'a plus de liberté pour l'utilisateur. On n'a plus de liberté pour le développeur. Et c'est ça qu'il faut absolument empêcher, parce qu'il y a beaucoup de velléité aujourd'hui de développer ces choses-là.
Alors aussi des messages, et c'est bien normal qu'on en fasse mention, sceptique, voire critique. Alors, il y a un thème, une formule qui revient très souvent, c'est la notion de droit d'auteur. Basile à Paris, 14e, alors que le droit d'auteur existe quand même dans tous les domaines, musique, sciences, technologie, littérature, théâtre, bref, tous les domaines de la création intellectuelle ou artistique, je vois mal en quoi il faudrait faire une exception pour l'informatique. Richard Stallman, je présume que cette question-là, vous l'avez très souvent entendue ?
Oui. D'abord, il faut noter que l'expression propriété intellectuelle ne doit jamais s'utiliser parce que c'est une confusion de base entre les droits d'auteur et les brevets et les marques qui sont trois lois complètement différentes sans rien à voir. Donc, si on commence une conversation avec cette expression, c'est déjà une confusion complètement confondue. Donc, je préfère de parler d'une loi à chaque moment.
Oui.
Quant au droit d'auteur, il faut noter que le logiciel libre a toujours existé dans un monde où il y a un droit d'auteur sur le logiciel. Et la grande majorité des programmes libres ont un droit d'auteur, mais le détenteur de ce droit d'auteur a décidé de libérer le code sous une licence libre. C'est pour ça qu'il faut des licences libres. La licence libre, c'est une déclaration du détenteur des droits autorisant à tout le monde les quatre libertés essentielles. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir un droit d'auteur sur le logiciel. Ce que je dis, c'est que le logiciel doit être libre pour ses utilisateurs. Chaque utilisateur mérite les quatre libertés essentielles déjà expliquées, et c'est injuste de les nier à n'importe qui.
Hélène Chevalier.
Je crois que Richard Stallman, vous aviez une belle comparaison à faire avec une histoire de gâteau et de recette pour mieux comprendre entre le logiciel libre et le logiciel avec une licence privée.
Oui, ceux qui ne savent pas programmer peut-être savent cuisiner. Et une recette est quelque chose comme un programme. Les deux sont des séries, des étapes pour produire le résultat désiré. Mais ceux qui font de la cuisine ont l'habitude de partager des recettes et de changer les recettes et d'utiliser librement les recettes. Imaginez qu'un jour, l'État dit, peut-être, c'est quelque chose que la SARCOM dirait, que dès ce jour, si vous partagez ou changez une recette, nous vous appellerons pirate et nous vous mettrons en prison.
Merci pour la comparaison, Richard Stallman. Si je comprends bien, Hélène Chevalier peut me donner la recette du gâteau. Je peux, moi, la modifier, enlever de la farine, ajouter du sucre. Et en plus, je peux proposer à Alix Cazenave de manger une part du gâteau.
La comparaison était que voilà, un logiciel avec licence privée, ce serait d'avoir le gâteau directement sans en connaître la recette.
Bonsoir Camille, vous êtes à Montauban pour votre part.
Oui.
On vous écoute, bonjour.
Oui, déjà, je voudrais remercier M. Richard Stallman et toute la communauté du libre par rapport à tout ce qu'ils font pour les utilisateurs finaux. Ils nous accordent toutes les libertés, l'utilisation des logiciels sans problème au niveau de la loi, etc. Et toute la communauté pour la participation, déjà. Ensuite, je voudrais poser une petite question à M. Richard Stallman. Justement, bien souvent, quand je parle de logiciels libres à des amis ou même des personnes qui développent des logiciels, il se pose la question du droit d'auteur dans le cas de ces applications-là. Par exemple, si on a le droit de vendre le binaire et qu'on met à disposition les sources auprès du grand public pour qu'ils puissent participer, apporter du code, etc., qu'est-ce qui nous garantit que derrière, n'importe quel utilisateur ne pourra pas compiler les sources?
Je vais vous demander aussi de parler, si possible, un peu plus lentement, si vous voulez, une réponse de Richard Stallman, qui est au téléphone, qui est américain. Et puis, d'autre part, de penser, indépendamment de celui à qui vous posez la question, à l'ensemble des auditeurs, en n'étant pas trop technique dans la mesure du possible.
D'accord. Bon, on va dire qu'avec la recette du logiciel,
oui,
on peut obtenir le logiciel final, enfin les binaires qui s'exécutent pour lancer le programme.
Oui.
D'accord. À partir de là, ce que je me demande, moi, des amis ou même des personnes qui essaient de développer des logiciels libres à vendre, comment on peut faire pour se protéger dans le cas où un utilisateur final, avec la recette, produire exactement le même logiciel pour le revendre derrière. Je veux dire, n'importe qui pourra faire une copie à partir des sources et revendre exactement la même chose. Comment faire pour se protéger de ça, pour que le modèle soit rentable ?
Richard Stallman, moi j'ai compris le mot recette, c'est déjà ça. Des éléments de réponse pour cet auditeur en France ?
D'abord, il faut noter que les utilisateurs ont le droit de diffuser des copies du binaire aussi. Pas besoin de récompiler depuis le code source. Mais quant à la rentabilité, il y en a qui apprécient surtout la rentabilité, efficacité, fiabilité. Mais pour moi, ces droits sont moins importants que les droits de l'homme. Donc pour moi, cette question est secondaire. Je souhaite que le développement du logiciel libre soit rentable. Parfois, il est rentable et parfois non. Mais surtout, il faut éviter et éliminer le logiciel privateur. Je ne dis pas privé, c'est autre chose. Le logiciel privateur qui prive la liberté aux utilisateurs est un problème et un danger. Une attaque à la liberté. Donc, pour vivre en liberté, il faut le rejeter. Donc, je n'utilise pas. Et comme ça, si quelqu'un développe un programme privateur, je dis que ce n'est pas une contribution à la société. C'est une attaque. Meilleur ne pas la faire. Et comme ça, je veux diminuer la quantité de logiciels privateurs développés et augmenter la quantité de logiciels libres développés.
Alex Cardinave.
Oui, Richard Stallman a raison d'insister sur cette notion de partage, de bien commun. Le logiciel libre est un bien commun dont nul ne peut retrancher, mais chacun peut ajouter. C'est très important. Et il a raison de dire que le logiciel privateur ne participe pas à ce bien commun parce qu'effectivement, il ne donne pas sa liberté. Ce que je voudrais dire pour compléter sa réponse sur les modèles économiques, c'est qu'il y a des sociétés qui éditent des logiciels libres qui sont commerciaux, donc qui ne sont pas gratuits. Et ces sociétés, ma foi, elles existent et elles font recette. Il y a évidemment tout près de chez nous, ici en France, la société Mandriva qui fait la distribution du même nom. Mais il y a également la société Red Hat. Il y a énormément de sociétés, Sun Microsystems, qui fait une bonne partie de logiciels libres dans son activité. Il y a énormément de sociétés dans le monde qui font du logiciel libre, qui en vivent, et il n'y a pas d'antinomie à faire du logiciel libre et à le vendre.
France Inter, le téléphone sonne, Alain Bédoué.
À propos de partage, un courriel de Bernard à Nancy, je ne crois pas que ça ait déjà été dit dans cette émission, c'est important compte tenu de notre contexte historique, économique, etc. Bernard qui voudrait souligner qu'il y a aussi une énorme fracture numérique mondiale pour les logiciels libres et propriétaires, puisqu'écrit-il, 97% des brevets appartiennent aux pays développés et 3% seulement aux pays pauvres ou émergents. Ce simple fait, écrit Bernard de Nancy, devrait nous faire réfléchir. Et puis on évoquait les particuliers, bien sûr, mais aussi les collectivités locales, certaines administrations. Éric d'Aix-en-Provence nous écrit « Merci de signaler que derrière les logiciels libres, il y a aussi des industries qui peuvent profiter de l'architecture par définition ouverte des logiciels libres. Le domaine des systèmes enfouis, robots, téléphones, assistants numériques, boîtiers Internet, électronique grand public contiennent très souvent des logiciels libres et le prix n'est pas l'argument principal. Là-dessus, peut-être Jean-Christophe Hélineau, à Mont-de-Marsan, un commentaire ?
Tout à fait. Moi, il y a quelque chose qui me paraissait important de rappeler. Ce sont les quatre libertés qui régissent, j'allais dire, le logiciel libre. Ça permettra peut-être aux éditeurs un petit peu de se recaler. Donc la première liberté, la liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages.
Oui.
La deuxième liberté, la liberté une, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, ce qui suppose donc bien entendu l'accès au code source, si vous préférez, aux lignes qui ont servi à programmer le logiciel. La liberté numéro 2, donc la troisième, la liberté de redistribuer des copies, ce qui comprend aussi, bien entendu, la liberté de vendre des copies.
Oui.
Et enfin, la dernière liberté, c'est bien entendu la liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations, ce qui suppose, bien entendu, là aussi, l'accès au code source. Donc, tout ceci, j'allais dire, contribue aujourd'hui, toutes ces libertés, hein, qui sont des libertés qui sont issues de la Free Software Foundation, contribuent à ce qui est devenu aujourd'hui la communauté du libre et les logiciels libres.
Philippe à Courbevoie en ligne, bonsoir, bienvenue au téléphone sonne, Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, mais moi, c'est pour un témoignage.
Oui.
Donc, c'est avec OpenOffice. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très lourd, qui était très long à charger par rapport à Office de Microsoft. Hein. Et on a l'impression qu'on charge l'ensemble du logiciel plutôt qu'à avoir des modules comme un traitement de texte, un tableur ou autre.
Si je comprends bien, Philippe, pour qu'on saisisse tous, vous avez fait, vous avez fait le pas, vous étiez sur un système, disons, payant, vous êtes passé au libre et vous avez eu quelques difficultés, c'est cela ?
Voilà, et je me suis rendu compte qu'il fallait un micro-ordinateur, enfin une bécane assez puissante pour l'utiliser.
Alix Cazenave, qu'en pensez-vous ?
Alors, il y a une confusion qui est souvent faite au niveau du lancement de ces logiciels-là, parce que quand on utilise un système Microsoft Windows, en fait, ces logiciels sont lancés en permanence, ce qui nuit considérablement aux performances du système d'exploitation. Quand vous utilisez un logiciel comme OpenOffice, finalement, vous le lancez une fois. Alors, vous pouvez aussi choisir de faire un lancement rapide avec un pré-lancement au démarrage de votre système d'exploitation. Et ensuite, il va se lancer beaucoup plus rapidement. Et en fait, vous allez constater qu'à l'utilisation entre les logiciels bureautiques de Microsoft et OpenOffice, OpenOffice est beaucoup plus léger. Et il n'y a pas besoin d'avoir une machine surpuissante pour utiliser OpenOffice. Bien au contraire, moi, si ça peut vous donner un ordre d'idée, je n'ai que 512 mégabits de RAM sur mon ordinateur portable et ça me suffit très largement pour utiliser OpenOffice.
Alors, question peut-être un peu complémentaire, Cédric, bonjour, je trouve qu'on tire relativement facilement sur les solutions Microsoft, pourtant elles ont simplifié l'informatique pour des millions de gens, même si les distributions Linux ont fait d'énormes progrès, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, là, c'est là que c'est assez intéressant, les deux mondes peuvent être complémentaires, par exemple Microsoft et Linux, qu'en pensez-vous Alix Cazenave?
Oui, les systèmes Microsoft et les systèmes GNU Linux sont aujourd'hui des composantes du paysage informatique, je dirais. Le problème avec les logiciels de Microsoft, c'est le comportement de la société, c'est les pratiques commerciales. On a des pratiques monopolistiques, des abus de position dominante qui ont été maintes fois condamnés. On a parlé de la vente liée il n'y a pas si longtemps, on en parle encore aujourd'hui pour d'autres raisons. C'est un dossier qui n'est toujours pas résolu. On a les atteintes à la concurrence, avec le refus de donner accès aux informations qui permettent de mettre en œuvre l'interopérabilité, c'est-à-dire de permettre à des programmes qui sont d'autres sociétés de communiquer avec les programmes de Microsoft, ce qui paraît quand même un petit peu la base pour permettre la concurrence. Donc surtout quand on a un système d'exploitation qui est répandu sur 95% des postes de travail des particuliers. Donc le problème, ce n'est pas la démocratisation de l'informatique. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien parce qu'il faut que les usages se développent. Mais c'est surtout le fait que les utilisateurs soient emprisonnés dans le système de Microsoft. On n'a pas ce cas-là avec d'autres systèmes, d'autres logiciels qui sont propriétaires qui emprisonnent moins parce que les pratiques sont différentes.
Richard Stallman, au téléphone, voulait aussi intervenir là-dessus.
Oui, il y a une grande différence entre le logiciel privateur de Microsoft et le logiciel libre. Un est injuste et l'autre est juste. C'est possible que la liberté et l'esclavitude existent ensemble, mais ce n'est pas désirable. Ce n'est pas le but. Le but est la liberté pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque utilisateur soit libre.
Pendant que vous parliez, on m'a apporté un autre courriel de Max à Cholet à propos des difficultés à tort ou à raison prêtées à certains logiciels libres. Il dit quand même, il faut pas oublier non plus que malheureusement, le monde informatique et numérique est fait pour et autour de Microsoft et que c'est peut-être effectivement une des raisons pour laquelle certains logiciels libres apparaissent comme un peu plus ardus de maniement. Retour au standard avec Eric. Eric, vous êtes à Toulouse et vous avez une question précise sur les logiciels libres.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
J'aimerais avoir une précision parce qu'un de vos invités disait que les logiciels libres pouvaient être rentables, parfois pas.
Oui.
Je ne comprends pas comment un logiciel libre peut être rentable si, par définition, justement, il est libre et gratuit.
Il n'est pas gratuit.
Il n'est pas gratuit, ajoute Hélène Chevalier. Vous allez nous expliquer ça, Alix Cazenave, et s'il le souhaite, Jean-Christophe Hélineau, aux rencontres mondiales de Mont-de-Marsan pourra compléter.
Oui,
Alix Cazenave.
Il ne faut pas confondre libre et gratuit. Libre ne veut pas forcément dire gratuit. Déjà parce qu'il a fallu mettre de l'énergie et souvent payer des développeurs pour que le logiciel aboutisse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour les particuliers, la plupart du temps, le logiciel est gratuit, sauf quand on va chercher quelque chose de plus. Par exemple, la distribution Mandriva, quand vous achetez en magasin ou sur le site une distribution Mandriva avec
Distribution Mandriva ?
C'est un système GNU Linux, donc alternatif à Microsoft Windows,
oui.
Qui est complet, fait pour l'utilisateur final, mmh. Chez lui. Vous avez toutes les applications courantes, multimédia, web, etc. quoi. Donc quand vous prenez par exemple une distribution Mandriva, vous avez le choix soit de la télécharger gratuitement, soit d'acheter du support, de la maintenance pour vous faire guider, pour vous faire aider dans votre migration. Il y a également beaucoup de logiciels qui sont payés en réalité grâce à tous les services associés. Donc je parlais du support et de la maintenance. On peut aussi parler de la formation, de l'intégration, du développement spécifique qui peuvent être commandés par des entreprises ou des administrations.
Jean-Christophe Hélineau à Mont-de-Marsan.
Oui, je confirme tout à fait ce qu'était en train de nous dire Alix. Il existe aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des logiciels libres et développent des logiciels libres. Et propose tout autour de ces logiciels des offres de prestations, des offres de support, ce qui permet bien entendu d'assurer la viabilité économique.
Bernard, vous êtes à Melun, en Ile-de-France. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je vous appelle parce que je suis passé moi aussi sur OpenOffice là, très récemment.
Oui.
Et sans aucune difficulté, je me suis aperçu qu'en fait, sur le tableur, sur le traitement de texte, l'interface était quasi identique avec la suite de Microsoft. Et les fonctions étant les mêmes, on l'utilise de la même manière. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas là contrefaçon ?
Alors, est-ce qu'on peut aller jusque-là, Alix Cazenave ?
Non, parce que, comme on dit, les idées sont de libre parcours. C'est un principe fondateur du droit. On ne peut pas breveter des idées, on ne peut pas protéger des idées. Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on protège le logiciel dans son ensemble. Or, OpenOffice a été construit en libre de zéro. Et il ne copie pas le code des logiciels Microsoft. Donc c'est un logiciel, comme on dit, original, dans le sens d'une œuvre originale. Et il n'y a absolument pas de contrefaçon là-dessus. Après, on peut parler de la question des brevets. Les brevets logiciels qui sont valides aux États-Unis ou au Japon, mais qui sont invalides en Europe au regard de notre législation européenne, ces brevets logiciels peuvent effectivement, de temps en temps, donner lieu à des procès assez retentissants que nous considérons dans le logiciel libre comme complètement iniques et déplacés parce que ce n'est pas les fonctionnalités, donc les idées que l'on va protéger. On ne protège même pas le code source dans un logiciel breveté puisque ça signifierait qu'il faudrait publier tout le code source. C'est la contrepartie du brevet. Et donc, comme on n'a ni l'un ni l'autre, finalement, le brevet logiciel est quelque chose de complètement déloyal.
Richard Stallman.
Il y a quelques années, dans les interfaces graphiques du logiciel libre, il n'était pas identique à celle de Microsoft. Mais les utilisateurs désiraient quelque chose de plus compatible. Donc, les développeurs ont changé les interfaces pour les rendre plus compatibles. C'est donc moins d'innovation, mais c'est ce que les utilisateurs exigent. Mais aussi, je dois dire que je ne dis pas le mot « protéger » dans la même phrase que brevets, parce que les brevets ne protègent pas, ils interdisent.
Alors Bernard Hamelin, vous venez de lui répondre, disait « Mais est-ce que les libres ne sont pas des contrefaçons de logiciels privés ?» J'ai la fiche de Dimitri, alors démarche inverse. D'abord, il explique que pour lui, là, tout ça, c'est une bonne illustration du vrai bénévolat. Des gens dépensent de l'énergie et de la matière grise sur leur temps libre et ne font pas payer aux utilisateurs non seulement le coût de leur réflexion et de leur intelligence et l'amortissement de leur propre matériel. Bon, dont acte, Dimitri. Et il ajoute, le problème, c'est que des sociétés commerciales profitent des avancées pour se faire du beurre et économiser les coûts de veille technologique. Autrement dit, c'est plus la contrefaçon du libre venant du privé, c'est le contraire. Vous avez déjà eu vent de ce type de situation, Alix Cazenave ?
Alors, il peut arriver que des sociétés réutilisent du code de logiciel libre pour le mettre dans un logiciel propriétaire. Or, il y a certaines licences qui autorisent à le faire, et il y a d'autres licences, comme la licence GNU-GPL, qui est la licence libre la plus utilisée, qui ne l'autorise pas. Ça donne lieu à souvent des procédures précontentieuses, c'est-à-dire qu'on discute, on ne va pas au procès. Parfois, ça donne lieu à un procès, mais c'est quand même assez rare. Après, il faut encore redire que les sociétés ont le droit de faire commerce du logiciel libre. Ça n'est absolument pas interdit, c'est même souhaitable. Il faut que le logiciel libre profite à tout le monde.
Alors, une question qui est revenue très, très, très souvent, Claudia, à Angoulême, est-il vrai qu'à l'achat d'un ordinateur, on peut demander la désinstallation et le remboursement de certains logiciels ? Léo, à Paris, quand on achète un PC, on peut demander qu'on enlève Windows et qu'on le rembourse ? C'est un bobard ou c'est vrai ? Ça revient très souvent. Alors, je vous la pose, je les lis comme ça arrive, Alix Cazenave.
C'est un dossier sur lequel nous nous battons depuis plus de 10 ans maintenant.
Oui.
La vente liée ordinateur et logiciel, c'est le fait que quand vous allez dans un magasin, vous avez toujours, systématiquement, le système d'exploitation Windows qui est préinstallé et souvent d'autres logiciels aussi. Quand vous achetez votre ordinateur, vous n'avez pas la possibilité de séparer les logiciels et le matériel. Vous êtes obligé d'acheter le tout. Or, ça s'appelle de la vente forcée. Et nous, nous nous battons contre ça. Nous essayons de faire respecter les droits du consommateur. Donc
Pour l'instant, c'est difficile à obtenir.
Alors, l'UFC a fait un procès contre notamment
l'Union fédérale des consommateurs, les gens que choisir. Oui.
Voilà. Le jugement vient de tomber. Darty a été condamné à afficher les prix. C'est un premier pas essentiel parce que les juges reconnaissent la vente liée. Nous avons jeudi 3 juillet une réunion à la DGCCRF.
Le 3 juillet, c'est après-demain, oui.
C'est après-demain.
Et la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence et des Fraudes. Voilà.
Voilà, qui est compétente. Et nous en attendons beaucoup. Nous espérons vraiment que ça va déboucher sur des solutions de compromis, des solutions qui mettront tout le monde d'accord.
Merci à tous. Il va être 20h demain soir. Cette fois avec Hélène Cardin, nous parlerons des contrefaçons de médicaments qui déjà, on le sait malheureusement, touchaient les pays pauvres. Et avec Internet, justement, touchent maintenant un certain nombre de pays plus développés, notamment en Union européenne. Merci à tous. Bonsoir, à demain.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.